Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Puis, après une heure d'humiliation et de plaisir, Eric se retire, épuisé, satisfait, comme une bête qui vient de faire un bon repas. Le lion qui a mangé vivant la gazelle. Il lui dit avant de quitter la chambre, « Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi, tu es tout à moi. » Et il quitte la chambre. Frédéric, humilié, endolori, souffre, pleure et se jure de se venger. Il ne veut plus que son frère vienne le voir. Il ne le supporte plus. Dans le même matin, il veut en parler à son grand-père pendant le petit déjeuner qu'ils prennent tous au salon. Il dit, « Grand-père, j'aimerais vous parler. » Grand-père lui dit, « Je t'écoute. » Frédéric lui dit, « Non, pas ici, seul, avec vous. »« Bien, nous irons dans mon bureau après le petit déjeuner. » Eric fait les gros yeux. La grand-mère lui met la main sur la sienne et dit, si Frédéric a quelque chose à dire, qu'il le dise devant tout le monde. Frédéric lui dit, je ne parlerai qu'à mon grand-père. Elle lui dit, un grand garçon n'a pas de secret à cacher. Il lui répond, je suis plus un enfant et vous l'oubliez un peu, vous et d'autres ici. Il y a des choses que je ne peux supporter. Je ne suis plus un enfant parce que je ne suis plus un enfant. Elle lui dit furieuse, « Petit insolent, va, ton grand-père ne t'écoutera pas en privé. » Il lui dit, « Eh bien, je ne parlerai pas. » Elle se pince les lèvres et se dit, « Petit impertinent, va, tu vas voir. » Auguste tape la main sur la table et dit, « Cela suffit, mon petit-fils veut me parler, il me parlera. » Amélie lui dit, tu n'as pas comme petit-fils, tu en as deux. Il lui répond, je sais très bien, elle distingue bien tous les deux. Je sais voir qui c'est qui. Et je ne les mets pas en bloc dans le même sac. Elle lui dit, moi non plus. Il se dit, Frédéric se dit, je suis bien rentré. Elle dit à Auguste, tu entendras Frédéric devant ton frère, devant son frère. Frédéric, furieux, lui crie, sûrement pas. Le grand-père dit, il a raison, si vous me parlez seul, il le peut, il est mon petit-fils. Et si Eric veut parler seul, il le pourra lui aussi. L'incident est clos. Elle dit, il ne l'est pas, puisque Frédéric n'a pas parlé et qu'il va sûrement ouvrir d'autres portes. Eh bien, qu'il en ouvrira d'autres. Et le petit déjeuner se passe en silence. Eric sait ce que va dire Frédéric. Mais s'il parle, il aura affaire à lui. Deux frères sont unis à jamais. C'est ce qu'il ne comprend pas. C'est imbécile. Sans lui, il n'y a rien. Après le petit déjeuner, ils sortent du salon. Auguste et Frédéric vont au bureau. Ils entrent dans le bureau d'Auguste. Assieds-toi. Il le fait asseoir et lui va s'asseoir à son bureau. Alors, je t'écoute. Voilà, grand-père. Je ne veux plus que mon frère m'ennuie la nuit. Il vient dans ma chambre et me souille, m'ennuie. Il dit que je suis sa chose. Le grand-père est gêné. Parce que Frédéric lui parle de ça. Il a dit... Il sait déjà depuis toujours ce qui se passe entre les deux frères. Mais il a laissé faire ça. Il ne peut pas maintenant. Il est vrai qu'il avait déjà parlé à Eric à cause de cette garce de Carole. Là recommençait encore cette discussion. Il dit, c'est pas bien grave. Ton frère a besoin d'affection. Frédéric est furieux, lui dit, pas bien grave? Oui. Il se lève, furieux, et lui dit, « Je m'attendais à autre chose de vous, et puis non. » Je n'en peux plus, je m'en vais. » Il quitte le bureau et l'appartement. Une fois dehors, il se dit, ce sont tous des criminels. Non, je ne veux plus. Même mon grand-père est avec eux. Non, c'est fini. Fini, fini. Je ne veux plus jamais. Il se met à marcher d'un bon pas. Il est furieux. Thank you. Il est furieux, mais il n'a aucune idée précise pour son avenir. Il file droit devant lui sans réfléchir. Puis s'arrête de marcher. La matinée est bien avancée, il fait doux. Il est sur le quai de la Seine. Le soleil est là et donne un peu de clarté et de douceur à ce paysage lugubre. Il s'appuie sur le rebord et regarde l'eau. Une étrange tranquillité l'envahit. Ne pense à rien. Tout d'un coup, il a faim, décide de s'acheter une tablette de chocolat, traverse les quais et entre dans une vieille épicerie. C'est noir et petit. Une grosse femme en blouse blanche, cheveux gris, est à sa banque. Elle lui demande: « Vous désirez, monsieur ?» Il lui dit: « Tablette de chocolat. » Elle lui demande: « Lequel ? Noir, lait, Pupier, Nestlé, Pontoir, Luxe ?» Il lui dit: « Pontoir, Luxe. » « Bien. » Et elle lui donne la tablette. Il lui dit le prix. Il cherche sa carte pour payer. Malheureusement, il ne la trouve pas. Il a changé de costume. Il lui dit: « J'ai pas de carte. » Elle lui dit: « La prochaine fois. » Il lui demande: « Vous ne pouvez pas faire crédit ?»« Je ne vous connais pas. » Il soupire, laisse la tablette et quitte le magasin. Il se trouve dehors, sans carte. Et sans carte, on ne peut rien faire. Rien faire. Il est furieux. Pas de carte, pas d'argent. Pas de soins, pas d'identité. Rien, on n'existe plus. On peut se faire prendre et tuer comme ça. Voilà ce que c'est que d'avoir tout mis dans une seule carte. Il y avait plusieurs, et si on en perdait une, il y avait toutes les autres. Maintenant, si on perd sa carte, on a tout perdu. Il se demande ce qu'il va devenir, seul dans Paris, au milieu des ruines, des clodos, des tueurs de clodos. Avant, lui aussi, voyait les clodos. Maintenant, il en est un. Que va-t-il devenir? Où va-t-il aller? Que va-t-il lui arriver? En tout cas, il ne veut pas retourner chez ses parents. Non, pas du tout. Il ne pense même pas. Et pourquoi? De aller voir son ami Gilles, qui le logerait, le nourrirait. Mais non, pas. Peut-être l'ivresse d'être seul dehors. Ça lui est déjà arrivé. Et ça se terminait toujours de la même façon. Le retour du fils prodige. Mais là, la maison, non. Que va-t-il devenir pour trouver, pour vivre? Il faut manger. Comment manger? Il peut voler, mais voler, ce n'est pas drôle. Voilà qui se trouve à la rue sans rien. C'est bien de sa chance. Il soupire et continue sa route. Thank you. pendant ce temps, les grands-parents, à l'heure du repas, il n'est pas de retour, Auguste demande. Où peut-il aller ? Elle lui dit, ne te fais pas de soucis, il reviendra bien vite. Il doit bouder. Auguste lui dit, je n'ai pas su le prendre. Elle lui dit, c'est une tête brûlée. Tu n'y es pour rien. Dans l'après-midi, non plus, pas de nouvelles de Frédéric. Elle dit à son mari, il viendra ce soir. Et le soir approche, rien. Il lui dit, il va falloir appeler la police. Elle lui dit, surtout pas. Pour une petite chose de rien du tout. Ils ont tellement de problèmes. Un enfant gâté qui fait une fugue, tu parles. Il lui dit, les enfants gâtés n'ont pas le droit qu'on les protège. Elle lui fait, mais que veux-tu qu'il lui arrive? Il lui dit, tout avec cette faune qui traîne. Il ne peut lui arriver qu'une chose, c'est qu'il devienne un art. Il hausse ses épaules et lui dit, ouh, pâté pour chien. Elle lui fait, tu crois, toi, à ces bêtises? Il lui dit, on en a vu d'autres. Elle hausse ses épaules et lui dit, il y a 70 ans de ça. Le dîner se fait sans lui. Puis on va au salon. Au salon, Auguste regarde Éric. Éric lui demande, qu'est-ce que j'ai fait? Auguste lui dit, tu le sais bien. La grand-mère dit, ce n'est pas lui qui l'a fait partir, c'est toi et toi seul. Auguste lui dit, et ce qu'il m'a dit? Elle lui demande, et que t'a-t-il dit? Il lui dit, ça ne te regarde pas, c'était en privé. Elle lui fait, tu confesses maintenant? Il ne dit rien. Ils vont se coucher sans des nouvelles du petit. Auguste dit à Amélie, il faut appeler la police. Elle lui dit, ils vont te rironner si tu préviens la police et qu'ils reviennent le lendemain. Il ne dit rien. Frédéric a passé sa première journée à marcher, à s'asseoir sur des bancs. Marcher loin de Paris, à l'autre bout de Paris, à pied. Personne ne lui a rien demandé parce qu'il est bien habillé pour le moment. Et puis chacun a ses soucis. Dans le milieu de l'après-midi, il a eu très faim. Dans une rue populaire, il a vu un étalage de fruits et de légumes d'un épicier. Il passe devant l'étalage et prend en vitesse une pomme, il traverse la rue et se met à courir de porte d'être poursuivi. Puis au bout d'un moment, il s'est arrêté de courir et a mangé sa pomme. C'était la plus bonne pomme qu'il ait mangée. Cette pomme, au fur et à mesure qu'il la mangeait, il l'a vue de plus en plus grande. C'est la pomme de sa vie. puis elle a été mangée. Il a tout mangé, même la queue. Il se sent tout triste sans sa pomme. Il en a envie d'une autre. Mais ne trouve pas de magasin et reprend sa route. Le soir commence à tomber. Après, la foule des gens qui rentrent de leur travail, les rues se vident. Il fait plus frais. Les rues, les réverbères s'éclairent. Les vraies vitrines de magasins aussi, de quelques magasins aussi. Il se dit, la nuit est là, que faire? Il faut trouver un coin pour dormir. Mais où? Sur les quais? C'est peut-être dangereux sur les quais. Dans une allée, il faut trouver une porte d'allée qui s'ouvre. Il ne sait que faire. Il se dit que la nuit va être difficile. Et puis il a toujours faim. Et là même, pour voler, les magasins sont fermés. Voilà, les rues sont presque désertes. On entend des chuchotements, des bruits bizarres, des chiens, des chats ou des rats, des pas. On n'y voit presque rien. Il continue à marcher. Que faire? Il commence à être fatigué. Il décide de s'asseoir sur les marches d'un vieil immeuble, dans une vieille rue. Il croise ses mains sur ses genoux et il dépose sa tête comme un oiseau pour la nuit. Là, il essaye de dormir. Mais c'est pas facile. Avec la fraîcheur, les bruits, dans le silence, la faim, la fatigue et la peur. Et puis, on n'est pas comme dans un lit, dans une chambre. Il a hâte que le jour vienne. Pour le SDF, le plus difficile, c'est la nuit. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Il sursaute et se lève. Grand, maigre, habillé d'un manteau long, noir, porte un pantalon, mais il y a aussi des bottes qui sont sur le pantalon. L'homme a des cheveux longs noirs, le visage très blanc et maigre. Demande à Frédéric, que fais-tu là, toi? Frédéric fait rien et se retire. Le lui fait, où vas-tu? N'aie pas peur. Frédéric continue son chemin. Il est fatigué et a peur aussi. L'homme le rattrape, il marche à côté de lui et lui dit, il ne faut pas avoir peur. Je suis comme toi, tu es nouveau ?
Oui.
L'homme lui dit, faut se méfier des hommes en noir.
Frédéric voit qu'il est en noir.
L'homme le voit, lui dit, je suis habillé comme ça, c'est pour qu'il ne puisse pas me prendre, pour qu'il me prenne pour l'un des leurs.
Frédéric demande,
et qui sont-ils ? Il lui dit, je ne sais pas.
Que font-ils ?
Ils tuent.
Pourquoi ?
Je ne sais pas.
Frédéric lui demande, et qu'est-ce que vous faites ?
Il lui dit,
moi rien, rien. Matin, je me suis retrouvé comme ça dans la rue. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai perdu la mémoire. Je ne sais plus rien.
Frédéric lui dit,
j'ai faim.
Lou lui dit,
moi aussi.
Il continue à marcher.
Frédéric se dit que c'est mieux d'être à deux. L'homme lui dit, attends, tu as faim ?
Oui,
moi aussi. Viens, on va là.
Et il pousse Frédéric dans une impasse, une petite et étroite impasse qui sent la pisse et est plein de détritus.
L'homme ramasse à terre une barre de fer, se penche à une grille de regard, met la barre entre les barreaux pour faire levier, pour sortir la grille de son moule. Elle se soulève et d'une autre main, il pousse la barre à terre. Le trou est ouvert. Il dit à Frédéric,
je te descends. Tu vas me suivre.
Pour aller où ?
Frédéric est peu rassuré. L'homme se glisse dans le trou. Frédéric fait de même et se trouve en bas, à côté de l'homme.
Il lui dit, c'est un passage pour aller aux égouts.
Pourquoi faire ?
L'homme lui dit, des choses. Allez, viens, on va chasser.
Et il suit l'homme.
Il marche dans un passage. Pas très haut. Il faut se baisser légèrement pour passer.
C'est comme un tuyau en béton en terre.
À l'horizontale.
Il y a un passage sur les côtés et au milieu de l'eau.
Ça ressemble au métro et ses quais, avec les voies au milieu.
Mais là, il y a de l'eau qui passe. Avec des détritus.
On n'y voit pas beaucoup.
L'homme lui dit, c'est des gouttes de Paris, sont comme les rues. Il y a les noms sur les rues, sur les murs, les noms des rues. Des rues qui sont au-dessus.
Il fait une chaleur humide et qui pue, l'homme dit.
Il y a certains qui vivent toute l'année là-dedans. Moi, je ne pourrais pas.
Frédéric lui dit, on va loin ?
Jusqu'à ce que l'on trouve des rats.
Des rats ? Et pourquoi faire ?
Pour les manger, mon petit.
Frédéric dit, mais c'est dégueulasse.
Il lui dit, lorsque l'on est dehors et à la rue, on ne peut pas faire la fine bouche.
Et il continue à marcher.
Si Frédéric savait revenir à la surface, il le serait bien. Mais il a peur. Il ne connaît pas le chemin pour le retour. Alors il soulève en priant qu'on ne trouve pas de rat. L'homme lui dit, on en tue tellement que c'est de plus en plus difficile d'en avoir. Il continue à marcher dans les égouts. L'homme lui dit, il y a eu un clodo qui a eu l'idée, c'est de faire la culture de rats. Mais il en avait tellement. Puis pour leur donner à manger, c'était pas facile. Alors les bêtes affamées vont dévorer. Attention, il me semble que j'en entends. Frédéric frissonne. Ils descendent en faisant le moins de bruit possible. L'homme s'arrête net. Frédéric aussi. L'homme lui montre dans une bouche, dans une cage du mur, un gros rat qui les regarde. L'homme lui dit, il est beau. Attention, il est dangereux. Et s'il te mord, il peut te donner la peste ou te tuer. C'est coriace et méchant, ces bêtes-là. Le rat les regarde bien avec ses yeux pour leur montrer qu'il a fort peur d'eux. Pousse un cri. L'homme prend sa barre de fer qu'il avait gardée là à la main. Il donne des coups secs sur la bête. Il tombe à terre en sang. Frédéric et Coré se retirent. Et la bête se redresse et file. Le salaud, il n'était pas mort. Tu as vu ce salaud? Et il court après le rat. Frédéric part derrière eux. Il ne peut pas rester tout seul. Tout d'un coup, le rat se retourne, s'arrête et regarde bien l'homme. Dans les yeux. Me mangerait ce salaud-là. Il lui lance la barre qui tombe sur la bête et qui ne bouge plus. L'homme accourt à la bête, la prend, prend la bête et le rat. On entend autour d'eux des rats. Il y en a plein. Frédéric est très dégoûté par cette chose que l'homme tient à la main. Il est aussi dégoûté par l'homme. L'homme lui dit, il est beau, c'est un mâle adulte. Ça fera une bonne part pour chacun. Tu en veux? Frédéric dégoûté lui dit, non, merci. L'homme lui dit, bien sûr, pas comme ça. On va le faire cuire. On n'est pas des bêtes tout de même. Tu verras, c'est très bon. Frédéric est déjà dégoûté d'avance. L'homme lui dit, allez, viens. fait, ils se mettent en route. Frédéric est bien obligé de suivre pour pouvoir sortir de ce trou à rats parce qu'il ne sait pas où est la sortie. Un quart d'heure de marche dans la puanteur et des déchets de cadavres, de bêtes et même d'hommes. L'homme arrive vers un renfoncement où se trouvent des bouts de planches et des déchets de toutes sortes. Il dit à Frédéric, sera parfait pour manger. Ici, on va pouvoir faire du feu. Frédéric lui dit dégoûté, on va manger ça dans cette puanteur? Pourquoi ne pas manger dehors? L'homme lui dit, tu es fou, on va se faire massacrer. Pour me prendre un butin, tu te rends compte, un rat de cette qualité, il n'y en a plus. Frédéric lui dit, tu exagères un peu, et puis, qui en voudrait de cette chose buante, plein de sang et de puces? Le lui dit, ça vaut de l'or, plein de puces. L'homme lui répond, oui, et puis, en plus, il y a des puces. Plus, ça montre que la bête est en bonne santé parce qu'elle la supporte beaucoup de puces. Frédéric lui dit, mais nous, on risque d'en avoir et d'en manger si on mangera. Elles seront brûlées et ça donnera des vitamines en plus. Et vivante, elle te vaccine contre la peste. Frédéric lui dit, où elle te la donne? Ah, ça, si tu tombes sur des puces malades. Mais il faut bien choisir. La puce? Oui. Allez, assez parlé, j'ai faim. L'homme des planches et des brindilles de paille. Il y met le feu avec une allumette. Et il jette le rat dedans. Frédéric dégoûté lui demande, il n'a pas enlevé la peau ni vidé? L'homme lui dit, tu es fou. Ça te donnera plus à manger. Et puis c'est bon. Il y a plus de vitamines. Allez, assieds-toi et on attend. L'homme s'assoit à terre à côté du feu. Il lui dit, ça fait du bien, un bon feu. Frédéric s'assoit à côté de ce taré. C'est vrai que le feu fait du bien. Fait du bien. Il dégage une puante. Insoutenable. L'homme lui dit, ça va être bientôt cuit. Ça va être bientôt cuit. Il faut pas trop faire cuire et manger la viande sanglante. C'est de plus en plus insoutenable. Insoutenable cette odeur. On va manger. Tu vas voir comme c'est bon. L'homme prend un vieux clou et un vieux couteau qui sont à terre. Avec le clou, il sort délicatement le rat qui est tout rouge. son corps, sa fourrure, et l'on voit ses yeux. La fourrure est noircie. D'une main, avec son couteau, et de l'autre, avec son grand clou, qui tient pour maintenir la bête et l'empêcher de bouger, lorsqu'il va la découper, il planque le tout dans le corps, en sort du sang rouge et demande « Tu veux le pain ?» Frédéric lui dit « C'est pas très fin. » lui dit « L'appétit vient en mangeant. Allez, je te donne l'eau. Il y a moins à manger, mais c'est plus délicat. » Et il commence à couper. C'est dur à cause de la peau en fourrure. Et puis, c'est pas tout à fait cuit. Juste un peu roussi, ou plutôt noirci. Ce qui fait qu'ils vont manger un rat, disons, cru. Remarquez que cru, ça donne plus de vitamines. Vous devriez essayer. C'est très bon. Frédéric lui dit, il est d'avance dégoûté. L'homme lui tend sa part. Tiens, Frédéric lui dit, merci. Mais... merci d'avance. Mais c'est un peu chaud. L'homme lui pose à ses pieds un torse gluant, rougi, avec des yeux grands ouverts, ronds, regardant en montrant ses crocs. L'homme s'assoit en face de lui. Ah, on va manger. Et il prend à deux mains la chose gluante. Poilu avec de deux pattes puissantes griffées. Il craque à pleines dents, le sang gicle sur le visage de l'homme. Frédéric a envie de vomir. L'homme lui dit « C'est délicieux !» Frédéric s'éloigne pour vomir. L'homme lui dit « C'est la faim, tu devrais... commencez à manger. Tu vois manger, ça donne faim. À ton ventre, il faut manger. Il voit que sort de la chair, au fur et à mesure que l'homme enfonce ses dents, des choses gluantes et rouges. L'homme lui dit, ça, c'est les intestins. Ils sont pleins, c'est bon. Frédéric n'en peut plus de ce cannibale et qui lui dit qu'il ne me le mangerait pas, lui, un jour. Il lui demande « Où se trouve la sortie ?» L'homme lui dit « On a le temps, tu peux manger tranquillement et après on fera un somme, hein, tous les deux. Se chauffer le corps et le reste, hein, toi qui es si jeune. » Frédéric panique. Il se dit que Paris n'est plus Paris, le quai Paris. Il lui dit, non, je n'ai pas faim et je veux retourner à la surface. L'homme lui dit, tu es fou, toi. Frédéric lui dit, vaut mieux que je retourne à la surface. Tu vas te faire tuer. Il vaut mieux que ça. Il sait plus ce qu'il dit. Il se lève, tente de tomber sur le morceau de rat et demande « La sortie, c'est où ?» L'homme lui dit « Là-bas, à droite. » Frédéric lui fait « Merci pour tout et pour le repas. » Juste au moment où s'en allait, approche trois hommes, grands, maigres et sables, habillé en guenilles. L'homme se lève. L'un des hommes lui dit :
Nous avons senti l'odeur de la cuisine. Alors nous sommes venus pour nous faire inviter.
L'homme lui dit :
Il n'y en a pas assez et c'est moi qui l'ai tué.
Un des hommes s'approche de lui et lui arrache le rein.
Belle bête !
Il y met les dents.
L'homme lui dit : T'as pas le droit, c'est à moi.
Et l'autre le pousse, le fait tomber à terre. Il se colle la tête au mur. L'homme ne bouge plus.
Le clodo qui l'a poussé dit : Maintenant, il y en a pour tout le monde. Allez, on va le déshabiller.
Frédéric, au griffier, voit les trois hommes se ruer sur le corps de l'homme qui est peut-être évanoui. Il se met à crier : Non ! Les trois hommes le regardent. Frédéric, apeuré, se met à courir.
Il entend les autres qui lui courent après.
Il court. Il a peur. Peur de finir dans le ventre de ces fous. Il ne sait pas où il va, mais il court dans les égouts. Il en a assez de tout ça. Il veut partir, revoir sa famille. Il court. Les autres le suivent. Tout à coup, il se trouve face à un mur. Il y a contre mur une échelle métallique. Il entend les autres arriver, panique et monte l'échelle vite. Il arrive en haut où se trouve un couvercle, une bouche d'égout. Il essaye de soulever la bouche d'égout en vitesse. Avec ses deux mains, il essaye de faire ça très vite parce qu'il entend les autres qui montent. Ouf ! Il est arrivé à lever le couvercle et le jette.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.